Radio Okapi. Au sommaire, ce matin sur Radio Okapi, fin ce dimanche 8 octobre 2023, dès l'opération des dépôts des candidatures à la CENI, trois nouveaux candidats à la présidentielle de décembre 2023, Félix Tshisekedi a déposé son dossier des candidatures hier samedi. Il affirme solliciter le second mandat pour poursuivre son combat de l'indépendance économique de la RDC. L'homme d'affaires et politique Nkema Lilo Bokonzi Loli et Tony Cassius Bolamba ont aussi déposé leur dossier des candidatures. Les déplacés de Kwamout au Maïndombe vivant dans la ville de Bandundu dénoncent leurs conditions de vie sur le site de Malebo. Ils entendent organiser lundi 9 octobre une marche dans les rues de Bandundu pour faire entendre leur voix. 17 000 agents et fonctionnaires de l'État sont en cours d'identification à Ituri. Cependant, certains agents accusent les services de la fonction publique d'exiger de l'argent à ceux dont les dossiers sont incomplets. Pour répondre à ces accusations, nous recevons Jean Dédieu à l'ISO, chef des divisions provinciales de la fonction publique. Guédoné Nyangasa est à la technique et l'étude à la présentation de ces journaux. Mesdames, Messieurs, bonjour. Félix Tshisekedi a déposé son dossier de candidature à la présidentielle 2023 ce samedi. Il affirme à la presse et sollicité le second mandat afin de poursuivre son combat de l'indépendance économique de la RDC pour son développement. Il indique qu'il est dans la bonne voie et veut poursuivre son action. Il évoque aussi la situation sécuritaire qui fait partie de ses préoccupations car sans la paix, il n'y a pas de développement, renchérit-il. On l'écoute, Félix Tshisekedi, il est au micro de Grâce Hamzati.
En 2018, au soir de notre victoire, j'avais dit que le combat continue, mais il a changé de forme. Et le combat, aujourd'hui, il continue. Ce combat, c'est pour notre indépendance économique. Et je peux dire aujourd'hui que nous sommes sur la bonne voie. Nous devons continuer. Cette indépendance économique, je la décline en trois lettres. RDC, République démocratique du Congo, mais également Renaissance. Pourquoi Renaissance? Parce que le Congo, la République démocratique du Congo, notre pays, était dans un gouffre, comme vous le savez. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'en sortir. Je reviens du Haut-Katanga et du Lualaba. Je peux vous dire que je suis fier de ce que nous y avions réalisé. On peut dire avec fierté que les lendemains sont meilleurs. Nous mettons un accent particulier sur la renaissance de notre pays. Certains diront même la remontada de démocratique, mais pour moi je le mettrai de développement. Mais comme vous le savez, le développement passe par une condition sine qua non, c'est la paix. Et enfin, le C de la RDC, c'est la crédibilité. La République démocratique du Congo a recouvré sa crédibilité aujourd'hui.
Après Félix Tshisekedi, l'homme d'affaires et politique Nkema Lilo Bokonzi Loli a ce même samedi déposé son dossier de candidature à la présidentielle de 2023 dans la soirée. Deux fois candidat malheureux à la députation nationale dans la province de la Choapa, il décide de se lancer dans la course présidentielle comme indépendant pour, selon lui, restaurer la sécurité et l'autorité de l'État sur l'étendue du territoire national. On écoute Nkema Lilo Bokonzi Loli, le 17e candidat à la présidentielle. Au micro de Grâce Hamzati.
Notre démarche s'inscrit dans une logique pour un retour à l'ordre et à la justice. Notre conviction est qu'il faut restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Un État efficient, un État savant, un État porteur de solutions pour les problèmes quotidiens des Congolais. L'autre aspect, c'est l'aspect sécuritaire. Il est pour nous important que soit garantie la sécurité des Congolais et de leurs biens, la sécurité du territoire, l'intégrité territoriale, la sécurité de nos institutions pour leur bon fonctionnement. C'est le gage du développement et de la paix. Écoutez, la CENI est une institution indépendante. Elle lui revient de faire sa part. Et nous, en tant qu'acteurs politiques, nous ferons notre part.
Pour clore ce dossier, Tony Cassius Bolamba, le 15e candidat, a déposé son dossier de candidature vendredi. L'ancien gouverneur de la province de l'Équateur place sa candidature sous le signe de l'austérité. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Irung.
Servir la nation à un autre niveau. Une fois élu, je promets l'austérité. Il faut baisser les dépenses de l'État et diminuer les trains de vie de l'État. Cela permettra à financer autre chose, les PME, On va mettre le pays en austérité. C'est ce que je promets. Par exemple, moi, je trouve inadmissible qu'un ministre puisse avoir 20 000 $ de salaire, alors que d'autres ont 200, 300 $. Moi, je suis gouverneur de l'Équateur. La première des choses que j'ai faites, j'ai baissé mon salaire de 15 000 $ à 5 000 $. Et j'ai baissé les trains de vie du gouvernement. Cela nous a permis à faire beaucoup de choses. Raison pour laquelle je promets l'austérité. Ou les candidats qui sera élu, s'il veut que nous l'accompagnions aussi dans l'austérité, on va continuer à apporter des conseils.
Notez que la CENI a annoncé pour ce dimanche 8 octobre la clôture de l'opération des dépôts des candidatures pour la présidentielle de décembre 2023. Autre titre de l'actualité, ce matin, au Kwilu, les déplacés de Kwamout au Maïndombe vivant dans la ville de Bandundu sont montés au créneau pour exprimer leur colère à propos du calvaire qu'ils vivent dans leur site à Malebo. À en croire ses compatriotes, ils sont dépourvus de tout. Ils n'ont ni accès aux soins de santé ni nourriture, ce qui les expose au décès. Dans une déclaration faite vendredi 6 octobre 2023 à Radio Capi, ils affirment être abandonnés à leur triste sort par les gouvernements tant central que provinciaux du Kwilu et des Maïndombe qui ne les assistaient pas. Ils entendent organiser lundi 9 octobre une marche dans les rues des Bandundu pour faire entendre leur voix. Un extrait de leur déclaration lu par Kassiama Mfutila, bienvenue, l'un d'eux. Il est proposé par Irène Mboma.
Nous, déplacés du conflit ethnique Tekeyaka, résidents au marché de Malebo, avons décidé de faire la marche pour ces problèmes qui nous dépassent ici dans la ville de Bandundu. 1. Non-assistance des soins primaires et non-assistance des prises en charge alimentaires qui provoquent tant de décès dans notre site de Malebo. 2. La non-scolarisation de nos enfants pendant une année due par manque de fournitures scolaires. 3. Nous avons des difficultés pour l'enterrement des déplacés qui meurent. Déjà, nous totalisons 69 cas. 4. Nous posons cette question de savoir. Nous sommes des Congolais ou des étrangers? Parce que le gouvernement provincial de Kwilu, Maïndombe et Central nous ont abandonnés à notre triste sort. Nous maintenons toujours la marche ce lundi 9-10 2023. À 8h, nous sommes sur la route.
Justice à présent, c'est le lundi 9 octobre que le ministère public devra répliquer aux mémoires uniques de la défense de Salomon Kalonda, conseiller spécial de Moïse Katumbi en détention à la prison militaire d'Ndolo, avant que son affaire ne soit prise en délibéré pour un arrêt avant dire droit. La cour militaire avait renvoyé l'audience du 25 septembre dernier au 9 octobre pour absence du prévenu dont l'état de santé ne cesse de se détériorer d'après ses avocats. Qui conteste la compétence de la cour à juger un civil. Mais ce samedi 7 octobre, Lazado et Justicia Asbel sont montés au créneau à travers une conférence de presse. Elles dénoncent un procès qu'elles qualifient de politique judiciaire et exigent la libération des Kalonda pour des raisons qu'évoque ici le président de Lazado, Jean-Claude Katende. Il est au micro de Jeff Ngoy.
Dans les dossiers qui concernent la détention en prison de M. Salomo Idi Kalonda. Après que nos organisations aient examiné son dossier, nous sommes arrivés à la conclusion que, au lieu d'assister à un procès judiciaire, nous assistons à un procès politique. Et nous avons compris que M. Idi Kalonda était victime d'un complot qui était préparé de longue date. Quels en sont les éléments? Le premier élément, c'est le fait qu'il a été arrêté pour détention illégale d'armes. Cette infraction a été écartée, mais il n'a pas été non plus libéré. Et quand vous compulsez les dossiers, vous vous rendez effectivement compte que un des conseillers principaux du Premier ministre a été mis aux trousses de M. Idi Kalonda en lui envoyant régulièrement des messages, des photos auxquelles il demandait qu'il fasse des commentaires. Et pour la plupart des cas, il n'a pas fait des commentaires.
Autre nouvelle, le chef de l'État a inauguré le jeudi dernier dans les Lualaba le centre d'excellence Kamoa. C'est un établissement qui assure les enseignements aux étudiants recrutés tant dans la communauté locale que dans d'autres coins de la province du Lualaba après un concours. Le chef de l'État a encouragé ces jeunes à profiter de cette opportunité pour s'affirmer et contribuer au développement du pays. Jean Gandou.
Kamora Centre d'Excellence est situé à une quarantaine de kilomètres de la ville de Kolwezi, dans l'extérieur de l'Ofupa, territoire de Mouchatia. Pour cette première année, ce sont 40 étudiants qui sont inscrits. Ils ont été retenus après un concours. Ils sont totalement pris en charge par l'entreprise. Le matin, ils sont transportés de leur résidence jusqu'au centre pour suivre les enseignements. Ils y sont nourris et le soir, ils sont ramenés. Chacun bénéficie d'un ordinateur et d'une petite collation à la fin de chaque mois. Ils apprennent l'anglais dans un programme accéléré, l'informatique et autres. L'objectif est de les rendre compétitifs. Au bout des 12 mois, les meilleurs d'entre eux iront poursuivre leurs études à l'Université de Pretoria en Afrique du Sud, qui est en partenariat avec Kamora Centre d'Excellence. L'année prochaine, 40 autres seront recrutés suivant la même procédure. Lors de sa visite, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui a apprécié cette initiative, a encouragé les apprenants à donner le meilleur d'eux-mêmes pour s'affirmer et profiter de cette occasion pour préparer leur avenir et participer activement au développement du pays. Il a émis le vœu de voir cet exemple être suivi par d'autres entreprises minières. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Rendons-nous à présent au Kasaï Oriental. Clôture ce samedi en Mbujimayi de l'atelier sur l'agriculture numérique. Ces travaux de deux jours ont été organisés par ALI, Institut Africain des Leadership Agricole, qui a pour mission de promouvoir le leadership dans la transformation de l'agriculture africaine. Les étudiants de la faculté d'agronomie, les inspecteurs, des agronomes ainsi que des entrepreneurs agricoles ont pris part à ces assises et tenues au Sénarec. Des explications avec Esther Ndalafina.
C'est depuis vendredi que certains étudiants de la faculté d'agronomie, les inspecteurs, des agronomes et les entrepreneurs suivent la formation sur l'agriculture numérique. Explication de Asia Jafar, membre de Kali Kalambo au Sud Kivu.
Ce qui est software, on voit plus les applications qu'on utilise soit pour la détection de maladies sur les cultures, soit pour la cartographie de parcelles, hardware quand on voit l'utilisation de drones, de GPS.
Cette nouvelle approche est également appréciée par l'ingénieur Léon Lukusa, chargé de filières agricoles à l'EPST.
Non seulement l'élève pourra mettre l'accent sur la pratique, mais aussi il doit savoir combien il a produit. C'est la culture des chiffres qu'on inclut.
Les participants Doris Ndaya et Jean-Paul Piana estiment que les notions apprises vont leur permettre de réduire les coûts et améliorer le service.
Je suis capable de contrôler et de surveiller de près ce que je suis en train de faire comme travail.
Il y a même mesure de détection des maladies qui attrape les plantes, donc très important pour moi.
Signalons que ALI dispose des brigades de jeunes formés pour accompagner les opérateurs agricoles dans la production végétale modernisée, l'élevage, la pisciculture, la mécanisation et l'éducation agricole. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Et puis faire en sorte que le personnel des Nations Unies travaillant à Beni, mais aussi les différentes structures des jeunes et femmes de cette ville bénéficient d'un état de bien-être mental qui leur permet d'affronter les sources de stress de la vie, de réaliser leur potentiel, de bien travailler et de contribuer à la vie de la communauté. Tel est l'objectif de la marche des santé organisée ce samedi par le comité du bien-être de la MONUSCO Beni. Cette marche qui a lancé les activités liées à la sensibilisation à la santé mentale est partie de la base logistique de Mavivi dans la ville de Beni. Blaise Makassi a accompagné les participants. Voici son reportage.
C'est l'ambiance qui a accompagné les marcheurs de ce samedi. Partie du camp militaire du contingent kenyan, civils et militaires ont avalé 7 km pour contribuer à la sensibilisation de la santé mentale afin d'identifier les déterminants individuels, sociaux, puis agir pour réduire les risques, accroître la résilience et créer des environnements propices à la santé mentale. C'est ce qu'indique Edwige Émilie Kwamen, psychologue à la MONUSCO Beni, qui encourage les activités en groupe.
Il faut prendre soin de sa santé mentale, il faut écouter son organisme, parce qu'on peut essayer nous-mêmes par les stratégies que nous mettons en place pour nous apaiser. Si ça ne marche pas, c'est toujours bien d'aller vers peut-être un autre collègue qui peut nous soutenir, ou alors même d'aller vers des professionnels de santé mentale que nous avons dans la mission et même dans la communauté à Beni. Donc en gros, il ne faut pas rester seul.
Pour les participants à cette activité, à part la fatigue, cette marche leur a permis de se détendre et de partager la joie avec des personnes des différentes organisations. Henriette Kaindo, l'une des participantes.
Après cette marche, je me sens bien. Le mental, je suis soulagée, ça diminue les émotions.
D'autres activités ont été organisées pour impliquer le personnel à la sensibilisation à la santé mentale. Beni, Blaise Makassi, Radio Kapi.
Actualité internationale.
L'État d'Israël est assommé ce 8 octobre après l'offensive menée par le Hamas hier. Les services de sécurité n'ont pu anticiper et empêcher ces attaques. Les médias israéliens avaient fait état d'au moins 200 morts et 1000 blessés, ainsi que des civils et des soldats capturés. La riposte de l'aviation israélienne a fait au moins 232 morts à Gaza. Les troupes israéliennes restaient engagées dans des combats en 22 endroits samedi soir contre des centaines d'hommes armés qui ont envahi Israël, selon un porte-parole de l'armée.
L'invité.
L'opération des contrôles physiques des fonctionnaires de l'État a démarré depuis le 2 octobre sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. L'objectif est de finaliser l'identification d'au moins 17 000 cadres et agents, entre autres ceux dont les noms ne figurent pas sur les listes des pays du gouvernement. Cependant, cette identification suscite des remous chez certains agents qui accusent les services de la fonction publique d'exiger de l'argent à ceux dont les pièces manquent dans les dossiers. Pour répondre à ces accusations, nous recevons Jean Dédieu Alizo, chef des divisions provinciales de la fonction publique. Il est au micro de Jean-Claude Loki-Dile.
Jean Dédieu Alizo, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Il y a une délégation qui est arrivée de Kinshasa pour le contrôle biométrique, mais certains des agents et cadres de l'État disent qu'il y aurait des monnayages, on demandait de l'argent, allant de 5 à 50 dollars américains, et ça pénalise certains qui ne reçoivent pas leur salaire depuis qu'ils ont été engagés. Du coup, ça pénalise d'autres personnes qui n'ont pas d'argent. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ces allégations?
La commission est arrivée pour identifier tous les agents de l'État de la province de l'Ituri. Alors, cette identification est gratuite. Par rapport au monnayage, nous sommes toujours avec la délégation à tout moment et je supervise aussi l'identification. Je n'ai jamais vu un agent donner l'argent à cette délégation. Et j'aimerais maintenant éclaircir l'opinion de la population itourienne. Tous les agents en Ituri sont dans l'irrégularité administrative.
Tous.
Tous. Nous, comme fonction publique, avec les chefs de division, nous nous sommes convenus, parce que c'est une occasion, une seule fois qui peut venir également en Ituri, de demander aux agents la contribution. D'abord, il faut notifier les arrêtés d'admission sous statut depuis 2010, 2018, 2020 et 2019. Imaginez, nous sommes au moins 17 000 agents en Ituri. Alors, pour la notification, ça demande le papier, ça demande l'acre, comme nous n'avons pas le courant. Il faut également les groupes électrogènes pour ce travail-là. Il faut également motiver ceux-là qui travaillent, même au-delà des heures de service. C'est comme ça que les agents eh bien, sont venus nous consulter pour sauver leur situation. Alors, les agents contribuent pour sauver leur situation.
C'est volontaire ou bien on les a obligés?
C'est volontaire. C'est volontaire. C'est comme ça que vous voyez ici, la machine est en train de bourdonner à tout moment. C'est parce que nous sommes au service maintenant de ces agents-là. De la même façon, pour les procès verbaux des constats des noms, les agents viennent eux-mêmes ici vers nous et nous les faisons. Parce que nous ne pouvons pas corriger les noms. Celui qui est habilité à corriger les noms, c'est seulement le secrétaire général qui avait pris la décision. Mais pour nous, seulement nous faisons les constats des noms par un procès verbal. Et aussi pour le changement des noms, soit la correction des noms, soit l'ajout des noms qui n'a pas été également dans l'arrêté, c'est le tribunal qui est compétent à le faire, le tribunal de paix. Alors nous verrons de trouver une solution avec la cour d'appel qui doit d'ici là ordonner au tribunal de paix de commencer maintenant et aussi à délivrer les jugements supplétifs pour suppléer maintenant au dossier de ces agents pour qu'ils participent au contrôle biométrique.
En principe, c'est à l'État congolais de pouvoir prendre en charge tous ces frais, toutes ces dépenses-là. Quelqu'un qui n'a jamais payé, maintenant c'est à lui que vous demandez de pouvoir payer ce montant, n'est-ce pas quand même, c'est pas normal. Et puis les montants varient de 10 à 50 dollars américains, c'est quand même trop pour acheter du carburant ou des papiers.
Non, les montants ne varient pas entre 10 à 50 dollars. Ça, c'est vraiment une interprétation erronée.
Ils disent que ça dépend, parce que si vous êtes cadre, par exemple, ou bien de division, donc ça peut aller jusqu'à 50 dollars américains.
Ce n'est pas vrai. C'est une information qui n'est pas vraie. Voilà. Comme la carrière est individuelle, l'agent lui doit prendre maintenant la charge de sa carrière. Ce n'est pas l'État qui doit maintenant prendre la charge de sa carrière. C'est l'agent lui-même. Alors c'est comme ça que les agents viennent eux-mêmes sollicité. Si aujourd'hui, soit une période, le cas de la santé, il y a plus de 8000 agents pour la notification seulement de la commission d'affectation. Il faut combien de papiers? Mais nous devons nous mettre dans la peau également des agents.
Tout cet argent-là, c'est pas 8000 personnes, 10000 personnes qui paient l'argent. C'est quand même une fortune, non?
Ce n'est pas tout le monde qui les paie. Ce n'est pas tout le monde. Nous sommes également humanistes. Ce n'est pas tout le monde qui les paie. Si quelqu'un vient déposer 10 dollars, on rachète les papiers. L'autre vient. Ce sont les mêmes agents qui sont venus vers nous solliciter les services, qui se plaignent à quoi?
C'est une fortune, moi, quand même, cet argent-là, quand même. C'est...
Non, ce n'est pas dans les 10 dollars. Si on vous donne 5 000 francs, on vous donne 10 000 francs pour mettre à supplier, les autres ne donnent même pas. Mais ce n'est pas le monnayage. Nous voulons seulement supplier au dossier des agents pour qu'il n'y ait pas demain, non, nos agents sont perdants pour ces contrôles biométriques.
Quelles sont des gens ou des personnes ou des agents qui nous passent cet argent? Vous connaissez le contexte de l'Itourie, il y en a qui, voilà, qui sont démunis, qui sont paupérisés par tout ce qui est conflit en Itourie. Est-ce que vous mettez ça à leur place? Quel est le sort des gens qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas même 5 000 francs, qui n'ont pas 10 dollars, qui n'ont pas 20 dollars, notamment ceux qui sont par exemple à l'intérieur ou dans des milieux où il y a l'insécurité?
Non, non, comme nous sommes humanistes, nous leur donnons seulement les documents.
Je vous dis merci de donner à Lise.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'agent des dieux Alizo, chef de division provinciale de la fonction publique en Ituri, interrogé par Jean-Claude Eloki Dile depuis Bounia. Et ce qui met fin à cette édition du journal, supervisée et coordonnée par Alain Irung. Merci à vous de l'avoir écouté.